partout en Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
Cet été, Opus Jazzy se met à l'heure anglaise. En effet, ces temps-ci, le jazz n'en finit pas de redécouvrir les mérites d'un rock anglais aussi indispensable qu'il fut inventif. Opus Jazzis Britannica célèbre ainsi durant toute la période estivale les noces fastueuses du jazz entre autres choses et du rock anglais avant toute chose.
Bonjour à tous, bienvenue dans Opus Jazzis pour une heure de jazz entre autres choses et de musique avant toute chose. Dans le cadre de notre été Britannica, nous vous proposons une nouvelle diffusion d'une émission que Jean-Philippe Doré avait consacrée au projet du vibraphoniste Frank Tortillier autour du groupe Led Zeppelin. Une émission qui trouve ici tout à fait sa place dans ces rencontres heureuses entre jazz et rock anglais.
Moby and Moby, également connu dans le répertoire de Led Zeppelin sous le titre de Moby Dick. Pour ouvrir cet Opus Jazzis autour de la passion Led Zeppelin de notre invité du jour, vibraphoniste que nous venons d'entendre, et leader de cet orchestre qui revisite Led Zeppelin, Frank Tortillier. Frank, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour.
Bien, ravi de t'accueillir au micro d'Opus Jazzis. Bon, on se connaît depuis très très longtemps puisque c'est un deuxième volet que tu consacres au répertoire de Led Zeppelin puisqu'il y avait eu un premier chapitre en 2006 à l'époque où tu dirigeais l'Orchestre National de Jazz. Assez gonflé d'ailleurs d'ouvrir son mandat à l'Orchestre National de Jazz avec un répertoire comme celui de Led Zeppelin. Et là, nous sommes donc de retour au paradis, Back to Heaven précisément, avec ce nouvel album Led Zeppelin Chapter 2 de l'orchestre Franck Tortillier. Alors, si on a choisi ce morceau pour ouvrir cette émission, c'est pour faire un rappel historique, justement, par rapport à ton histoire avec Led Zeppelin, puisque ce Moby and Moby, tu l'avais déjà enregistré sur le premier album que tu avais consacré à Led Zeppelin, donc ce Close to Heaven, sorti en 2006, sous le label de l'Orchestre National de Jazz. Alors, c'était aussi justement pour faire le pont entre deux approches qui sont différentes et complémentaires du répertoire de Led Zeppelin.
Oui, alors enfin, c'était toute une histoire, parce qu'effectivement, voilà, c'était lorsque j'ai dirigé l'Orchestre National de Jazz entre 2005-2008. Voilà, il y avait ce répertoire qui était un petit peu central de tout ce qu'on a fait, de tous nos concerts. On l'a énormément joué, on l'a joué peut-être 200 fois. Voilà, donc c'était vraiment une période assez propice en tout cas pour ça. Et déjà à l'époque, lorsque ce premier disque est sorti, je voulais en faire un deuxième. Et parce que effectivement, ce répertoire-là est tellement riche, la musique est tellement riche qu'elle permet aussi d'aller dans beaucoup de choses et la vie fait que voilà, ça s'est pas fait, il a fallu faire autre chose et puis là le fait de repenser cet orchestre avec des jeunes musiciens, beaucoup d'ailleurs essentiellement sauf un qui est Patrice Herral, qui est donc le batteur et chanteur, donc qui est un peu le survivant de cette époque il y a une quinzaine d'années. Mais c'était que là, ce ne sont que des jeunes musiciens et musiciennes, et c'était aussi important pour moi d'avoir leur ressentiment et leur vision aujourd'hui de ce que peut être cette musique qui est née dans les années fin des années 60 et début des années 70.
Alors cette nouvelle génération de musiciens, bien sûr, on va en parler au fil de cette heure que tu passes en notre compagnie, mais pour poursuivre plus précisément sur cette passerelle entre ces deux albums, donc il y a cette relecture de Moby Dick et il y a aussi Dazed and Confused qui était à l'origine tiré du premier album de Led Zeppelin, qui fait aussi le lien entre ces deux répertoires dans une version totalement différente. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de reprendre ces deux morceaux-là, sachant aussi que ce sont deux morceaux qui sont historiques dans le sens où ils proviennent des deux premiers albums de Led Zeppelin, donc puisque rappelons que Moby Dick était sur le Led Zeppelin 2 à l'origine, et que ce sont aussi, côté batterie pour Feu John Bonham et côté guitare pour Jimmy Page, deux morceaux qui étaient sans doute les plus ouverts à l'improvisation pour Led Zeppelin en concert. Est-ce que c'est ce qui a fait aussi ou pas que tu as choisi de revisiter ces deux morceaux-là sur ce nouveau répertoire ?
Alors Moby and Moby, enfin c'est effectivement c'est ce clin d'œil à Moby Dick qui est le seul morceau que John Bonham a signé seul. En fait c'est juste c'est un riff en fait, hein, c'est un riff de blues, donc voilà, c'était quand même un clin d'œil qui était intéressant. Et sur Dazed and Confused, alors, ce morceau est très emblématique. Notamment, j'ai eu des versions parce que j'avais rencontré le jazz fan, enfin le fan club en fait de Led Zeppelin, le vrai fan club. Hein, et donc, c'était vraiment intéressant qu'on se rencontre. Et il m'avait donné une version comme ça de Dazed and Confused d'un concert à l'Earl Court à Londres en 69, je crois, un truc comme ça, et qui dure 48 minutes.
Pas mal.
Je suis pas certain qu'un groupe de rock aujourd'hui qui rassemble 20 000 personnes à Bercy, par exemple, puisse faire une version d'un morceau qui dure 48 minutes avec des improvisations au milieu. Je suis pas certain. En tout cas, à l'époque, ça l'était. Et c'était ça qui me semblait aussi important de continuer, parce que c'est un morceau à tiroir, en fait, où il se passe beaucoup de choses. Et là, sur cette version, j'ai essayé de revenir aussi à quelque chose d'essentiel sur ce qui était, à mon sens, hein, ce morceau. C'est en fait quelque chose qui réunit beaucoup de styles. Et c'est d'abord un riff de blues, d'abord et avant tout, lent. Et aussi, c'est quelque chose qui permet beaucoup d'improvisation, d'aller dans beaucoup de paysages différents. Et finalement, que ça sonne aussi beaucoup comme un orchestre de jazz, en fait. Voilà.
Alors, après ce petit flashback entre deux albums sortis à 16 ans d'intervalle, même si la création du répertoire remonte encore un petit peu plus loin dans le temps, puisque c'était au Festival de Jazz de Nevers en 2004, avant même que tu ne deviennes chef de l'Orchestre National de Jazz, on va s'immerger tout de suite dans le répertoire de ce retour au paradis, Back to Heaven. Et là, nous allons écouter une relecture d'un morceau de 1976 qui ouvre ce Back to Heaven.
Opus Jazzis Britannica. Le rock anglais déjoué par le jazz. Tout l'été sur IDFM Radio.
Nous sommes toujours au fil de cet opus jazzis dans du jazz entre autres choses et Led Zeppelin avant toute chose avec notre invité du jour et chef de cet orchestre avec un O majuscule, l'orchestre du vibraphoniste Franck Tortillet avec nous pour cet album Back to Heaven, Retour au Paradis, donc deuxième album de ton parcours musical dédié au répertoire de Led Zeppelin. Et là, nous étions précisément en 1976 avec une relecture d'une chanson intitulée Achilles Last Stand qui était à l'origine la chanson d'ouverture de l'avant-dernier album studio de Led Zeppelin, Presence, donc sorti en 1976. Et ce qu'on peut noter déjà pour quelques mots à propos de ce disque, c'est que après les expérimentations diverses et variées de Physical Graffiti, le double album studio de 1975, là, on est dans un Led Zeppelin très brut et retour aux sources quelque part.
Oui, en tout cas, c'est aussi de. Alors, lorsqu'on se lance dans ce genre d'aventure, c'est de. Comment dirais-je, c'est de garder, enfin, d'avoir cette liberté quand même de s'approprier une musique, puisque le jazz est une musique d'appropriation, mais de quand même garder les fondamentaux de cette musique, c'est-à-dire l'énergie, le son. Et comment voilà on peut révisiter tout ça sans trahir. Ce qui est pas simple, mais d'un autre côté, enfin on m'a toujours posé cette question, c'est on m'a demandé mais pourquoi je faisais ça en fait. Et la seule réponse que j'ai, c'est parce que j'aime ça. Et que si on trahit pas, si on aime ça, je pense.
Et je me souviens, pour en faire un petit flashback, lors de notre première conversation en 2006 pour la sortie de Close to Heaven, tu disais à l'époque que c'était moyennement, je te cite, hein, que c'était moyennement un disque de jazz, mais qu'on aime bien ça aussi quelque part finalement.
Oui, après, lorsqu'on fait du jazz, c'est le genre de discussion qui est vieille. Comme le jazz, c'est-à-dire c'est de savoir si ça en est ou si ça en est pas. Faut éviter ce type de, enfin dès le début, hein, déjà des années 1920, il y avait toujours des gens qui disaient est-ce que ça en est, est-ce que ça en est pas. Et les gens qui débattaient là-dessus, c'était souvent des gens qui ne le pratiquaient pas.
En plus.
Et donc en fait, il faut juste garder, je crois, l'aspect simple et l'aspect musical des choses. Et voilà, peut-être c'est pas du jazz, peut-être ça en est. Je veux pas rentrer dans ce débat. En tout cas, c'est ce qu'on défend.
Et on se dit finalement pourquoi faire au final quelque part. Et donc pour poursuivre sur ce donc Led Zeppelin volume 2, donc on reste aussi dans cette réappropriation dans quelque chose qui fait aussi écho au premier album, dans le sens où Bon, on revisite évidemment, mais on garde quand même en l'état les points, entre guillemets, les points forts de ce qu'était Led Zeppelin. C'est-à-dire, on relie les riffs de guitare de Jimmy Page, on relie les lignes de chant de Robert Plant, et aussi on va poursuivre avant d'écouter un deuxième extrait sur un personnage dont on ne parle pas beaucoup finalement à propos de Led Zeppelin, d'autant plus que c'est lui qui a composé à l'origine la chanson qu'on va écouter juste après, c'est John Paul Jones. Alors John Paul Jones, multi-instrumentiste XXXL, mandoline, clavier, guitare, basse électrique, piano, orchestrateur de génie aussi, qui avait quand même offert à Donovan les orchestrations de Mellow Yellow en 1967 alors qu'il n'avait que 21 ans, pour donner une référence précise aux amis qui nous écoutent. Alors justement, toi qui as revisité Led Zeppelin donc en tant que chef d'orchestre et orchestrateur avec un ré éventuellement entre parenthèses juste avant, ou ré-orchestrateur, qu'est-ce que ça t'inspire John Paul Jones dans Led Zeppelin justement?
Alors, dans l'histoire de Led Zepp, John Paul Jones, c'est le moins fantasque des quatre. Mais à mon sens, effectivement, c'est lui, sans lui, il se passe rien, en fait. Enfin, oui, rien. Enfin, en tout cas, ça se passe pas pareil. Mais en fait, c'est lui qui a amené aussi toute cette harmonie, toute cette façon de jouer, la place de la basse aussi. Et surtout, moi, j'aime beaucoup lorsqu'il joue la mandoline, quand il y a tous ces titres folk, c'est traditionnel, hein, qui ont été repris. Et ça, c'est vraiment... C'est vraiment un truc très particulier, je trouve, dans l'histoire de Led Zeppelin, dans l'histoire de cette musique.
Et on pourrait rajouter aussi les flûtes en introduction de Stairway to Heaven, bien sûr. Et là, on va écouter précisément une musique de John Paul Jones sur des paroles de Robert Plant dédiées à son fils adoré et disparu, son fils Karak. Ce qui donne aussi un indice de ce qu'aurait pu être le Led Zeppelin des années 80, puisque la version originale laisse beaucoup de place au synthétiseur qui allait devenir presque la norme musicale de la pop des années 1980. Et là, nous sommes en 1979 avec le dernier album studio de Led Zeppelin, In Through the Outdoor, et cette chanson intitulée All My Love. Thank you. All My Love, Led Zeppelin, revisité par l'orchestre de notre invité du jour, le vibraphoniste Franck Tortillet, au fil de cet opus jazzis, avec donc cette chanson qui était déjà ce qu'on appelle aujourd'hui dans le monde du hard rock et du metal, on pourrait presque appeler ça une power ballade en version studio, qui là se transforme quasiment véritablement en ballade dans cette version, avec cette idée de trompette piccolo, avec un amical salut à Joël Chose. Tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ?
Oui, alors, dans la version originale, il y a un solo de synthétiseur, en fait, qui est dedans, donc que j'ai relevé, et que j'ai développé après, où il y a tout ce truc de cuivre et tout ça. Et en fait, là, je voulais que ce soit la trompette piccolo, parce que pour moi, c'est un vrai clin d'œil à Penny Lane, en fait, des Beatles. Et que ça sonne un petit peu comme ça. C'est-à-dire que effectivement, personne n'utilise cet instrument. C'est un instrument qu'on utilise dans la musique baroque ou dans la musique classique, en tout cas. Et ça donne une couleur très, très particulière. Alors, effectivement, quand j'ai amené la partition à Joël Chose, donc trompettiste, il m'a dit « Mais non, c'est pas possible de jouer ça ». Je lui ai dit « Mais si, bien sûr ». Et donc, comme il aime bien les défis et que c'est quand même quelqu'un de grand talent, donc voilà, il a fait ça. Mais pour moi, c'est vraiment ce petit clin d'œil quand même aux Beatles et à Penny Lane qui dans tout ce qu'ils faisaient, pouvaient mettre des instruments aussi, des orchestrations très particulières, comme aussi Led Zeppelin l'a fait, en tout cas dans cet album-là.
Absolument, puisque rappelons aussi que pour Penny Lane, pour conclure à propos des Beatles, Paul McCartney avait eu l'idée de faire appel à un véritable trompettiste baroque pour la version studio des Beatles, effectivement.
Il y a une vraie anecdote, en fait, c'était le soliste du London Symphony Orchestra, qui était un mec très très connu, et lorsqu'on l'a voulu, on lui a donné le choix, si soit vous voulez payer pour la séance ou avoir des droits sur la chanson, lui il a dit, moi toucher des droits sur cette merde de McCartney, ce qui était, cite, hein, je cite Exila, c'est hors de question. Et donc là on a le train de l'histoire qui passe devant soi.
Et oui, voilà. et on se dit qu'on aurait peut-être pas dû. C'est un petit peu comme dans un autre registre, Eddie Van Halen qui s'était fait payer au tarif syndical du musicien de studio pour son solo de guitare pour Michael Jackson, par exemple. Exactement. C'est le même genre d'histoire, en fait. Et on va donc poursuivre avec une singularité pour cet album, c'est qu'en fait, autant le premier album Close to Heaven, tu rentrais dans l'art des grands standards de Led Zeppelin, autant là, tu es allé chercher des choses moins connues mais splendides, notamment ce All My Love qu'on vient d'écouter, et tu disais un petit peu plus tôt dans cette émission que tu avais cette idée de longue date de faire un deuxième volet. Mais est-ce que tu avais déjà le répertoire en tête au moment où tu as commencé à penser à un deuxième volume ?
Alors, le répertoire précis, non, parce que c'est quand même quelque chose où il faut vraiment se pencher, mais une idée, en fait. C'est-à-dire, une fois qu'on avait fait ce premier volume, où là où il y avait tous les grands hits, et Stairway, et machin, tout ça. Donc là, c'était aussi de continuer le chemin et d'aller vers des choses qui me semblent plus personnelles, en fait. Et plus, peut-être aussi des fois plus radicales dans ce que faisait Led Zepp. Après, le choix des morceaux, c'est déjà un premier pas sur l'écriture et sur la musique. Hein.
Alors, ce qu'on peut signaler aussi, c'est que là, pour l'instant, avec les deux derniers morceaux que nous venons d'écouter, nous étions sur deux albums, donc les deux derniers albums studio de Led Zeppelin, donc Presence 1976, Into the Outdoor en 1979, qui ne figuraient pas dans le répertoire du premier Close to Heaven de 2006. Et c'est également le cas du morceau qu'on va écouter dans quelques instants, mais on peut pas s'empêcher de faire une référence à Led Zeppelin 3 avant d'écouter l'extrait qui va venir, puisque si on se souvient de la pochette du Close to Heaven de 2006, il y a quand même un petit paradoxe, puisque on se retrouve avec une pochette qui, moi, m'a fait énormément penser à celle du Led Zeppelin 3, c'est-à-dire la grande pochette blanche avec la petite roue qui tourne à l'intérieur, alors que le gag, entre guillemets, de l'histoire, c'est qu'il n'y avait pas un seul morceau du Led Zeppelin 3 dans ce disque-là, en fait.
Oui, c'était un petit clin d'œil réservé aux connaisseurs.
Alors donc, tu disais en antenne, pendant qu'on écoutait All My Love, que tu n'avais quasiment pas revisité de standard de Led Zeppelin dans ce deuxième volume, sauf un, celui qu'on va écouter maintenant, Immigrant Song. Mmh. Un standard de Led Zeppelin, toujours extrait du deuxième album que notre invité du jour dans cet opus jazziste, vibraphoniste Franck Tortillet et son orchestre ont consacré au répertoire de Led Zeppelin, donc Back to Heaven, Led Zeppelin Chapter 2, sorti sur le label MCO. Et pour faire toujours justement cette liaison historique avec l'ONJ, donc entre l'Orchestre National de Jazz et l'OFT, donc l'Orchestre Franck Tortillier. Pardon pour ce petit raccourci, mon cher Franck. Donc, on va parler un petit peu des musiciens de l'orchestre. Alors, pour la première mouture du répertoire de Led Zeppelin, donc Close to Heaven 2006, on se retrouve avec une bande de musiciens jeunes cadras à l'époque et jeunes quinquas de 2022, pour faire simple. Par contre, tu disais tout à l'heure que Patrice Héral faisait un peu le pont entre ces deux albums et presque ces deux générations, pourrions-nous dire. On pourrait également parler de Joël Chauss, mais qui lui était arrivé un petit peu plus tard au sein de ton ONJ entre 2005 et 2008. Donc là, on va faire le casting. Donc on vient de parler de Patrice Héral et Joël Chauss, Gabriel Rachel au trombone, Maxime Berton, saxophone, ténor et soprano, Olga Almenchenko également au saxophone, Mathieu Vialcollet qu'on vient d'entendre à la guitare, Jérôme Arrigui à la basse électrique. Alors, poursuivons sur Mathieu Vialcollet, puisqu'en fait, là, tu as ajouté un instrument que tu t'étais, et là, je te cite encore en 2006, interdit pour la première mouture de ce répertoire, même si je me souviens notamment d'un concert avec notre ami Olivier Louvel à la Fender Stratocaster.
Oui, on a eu, j'avais dit que pas de guitare, effectivement, et on a fait plusieurs concerts avec trois guitaristes. Il y a eu Olivier Louvel, bien sûr, il y a eu Gwynley. Et il y a eu Louis Mintzberg. Donc on en a eu quand même, on avait une belle brochette.
Ouais.
Et alors là, le fait de effectivement de mettre la guitare là vraiment dans l'orchestre sur nouvel album, c'était aussi c'est une discussion avec Mathieu pour évidemment pas avoir cet effet miroir avec Jimmy Page et que la guitare soit vraiment comme une couleur orchestrale, quoi, que ce soit vraiment du son, qu'on travaille vraiment sur le son et que ça amène quelque chose en plus. Donc c'est ce qu'il a fait. Et sur cette nouvelle génération, là ils ont tous à peine 30 ans en fait, hein, ce que je trouve intéressant, c'est que le rapport avec cette musique qui est quand même qui est deux ou trois générations avant, le rapport de ces jeunes musiciens ont un rapport un peu moins romantique que nous, je dirais ça. Et en fait, c'est de dire c'est quelque chose qui existait, c'est un matériel, et ils sont c'est de faire rentrer en collision en fait des visions. Et ça, c'était pour moi, c'est super de travailler dans cette optique là c'est-à-dire aussi d'être bousculé et puis aussi d'avoir des options franches. Autre, là, il y a eu ce qu'on écoutait tout à l'heure. Il y a des trucs de rap, il y a des trucs de funk, il y a des trucs de machin. Tout d'un coup, on s'est permis en fait beaucoup plus de transgression stylistique, je dirais, en fait, aujourd'hui, par rapport à ces jeunes musiciens et musiciennes qui bouscule aussi ce qu'on peut attendre de la relecture d'un répertoire comme celui-là.
Alors effectivement, là, puisque si on résume un petit peu, on pourrait presque dire que des jeunes musiciens comme Olga Almenchenko ou Mathieu Vialcollet pourraient presque être les petits enfants de Jimmy Page quelque part.
Oui,
en termes de génération, c'est que et qu'est-ce qu'on se dit effectivement quand on se retrouve avec des jeunes musiciens dont ce n'est peut-être pas forcément la culture. Alors du coup, qu'est-ce que ça change pour eux? Est-ce que, à ton avis, ça peut leur donner l'envie d'aller creuser un petit peu plus dans Led Zeppelin, dans la musique des années 70 d'une manière plus générale?
Certainement, oui. En tout cas, ça aussi, je pense que ça. En fait, on s'enrichit les uns les autres, en fait. Voilà. C'est aussi de dire, voilà, on joue ça, c'est de faire écouter les versions originales et puis regarder un peu ce qu'on peut faire, et aussi c'est d'amener d'autres. D'autres idées, d'autres façons de jouer. En fait, chacun s'enrichit s'il y a vraiment le respect de garder l'essence de cette musique. C'est ce qui nous tient tous. Il y a un respect de cette musique et il y a vraiment ce qu'on doit défendre et comment ça doit sonner, quoi. Tout le monde doit s'y retrouver.
Alors, quand on fait enregistrer la musique de Led Zeppelin à une bande de jeunes trentenaires, est-ce qu'on utilise parfois une petite ruse de fils de vigneron avec des bonnes bouteilles dans le studio?
Non, mais ça, c'est une arme secrète et de destruction massive. Donc ça,
D'ailleurs, je crois me souvenir que tu l'avais... quasiment utilisé pour l'enregistrement du premier répertoire, me semble-t-il.
Oui, c'est vrai.
Alors, pour préciser aussi à propos de Mathieu Yelcollet, c'est qu'il y a aussi une véritable chanson revisitée en tant que telle dans l'album Back to Heaven, donc qui est en fait une relecture de Going to California, en fait, qui est extraite du quatrième album, qui est d'ailleurs l'album de Led Zeppelin que tu as le plus revisité, auquel tu as quasiment emprunté le plus de chansons. Et là, on va écouter une autre relecture extrêmement séduisante et encore plus insolite, puisqu'on parlait de John Paul Jones et de la mandoline tout à l'heure. Et il faut rappeler que sur The Battle of Evermore, donc qui figure sur Led Zeppelin 4 et dont on va écouter ta relecture dans quelques instants, en fait, les instruments, c'était quoi? C'était deux mandolines et deux voix, donc revisité par l'orchestre avec un O majuscule de Franck Tortillé pour cette version.
Opus Jazzis Britannica, le jazz feel à l'anglaise. Tout l'été sur IDFM Radio. Thank you. Around the World with Opus Jazzes. Sur IDFM.
Le monde de Led Zeppelin, revisité par l'orchestre de notre invité vibraphoniste Franck Tortillier, puisque là, effectivement, on adresse un clin d'œil aux racines folk de Led Zeppelin, là, puisque là, on parle d'une balade traditionnelle qui était à l'origine de Battle of Evermore, avec une grande voix du folk britannique des années 1970, invitée sur la version originale, la chanteuse Sandy Denny, qui duettisait avec Robert Plant. Robert Plant qui, par la suite, nous a offert, petite indication aux amis qui nous écoutent et qui ont envie d'en savoir plus, côté folk, justement, deux magnifiques albums avec Alison Krauss qu'on vous engage vivement à écouter. Alors, pour poursuivre un petit peu plus sur l'orchestre avec un O majuscule, ce qu'on note aussi depuis que tu travailles en moyenne formation, parce qu'on n'est pas tout à fait dans le format du Big Band, rappelons-le. Donc si on remonte aux racines de l'orchestre qui a enregistré l'album Close to Heaven et qui n'était pas encore l'Orchestre National de Jazz au moment de la création du répertoire en 2004, c'est qu'en fait, de l'Orchestre National de Jazz à l'Orchestre Franck Tortillier, tu as beaucoup travaillé sur les années 70. On a eu Led Zeppelin, on a eu le jazz électrique des années 70 avec l'ONG, on a eu Frank Zappa il n'y a pas très très longtemps, et aussi je me souviens également d'un concert, d'un répertoire consacré au rhythm and blues qui malheureusement à ma connaissance n'a jamais été enregistré, ou tout du moins n'est jamais sorti. Alors est-ce que c'est aussi pour toi, bon, sans parler de ton histoire parallèle avec l'orchestre Padeloup, c'était une volonté de ta part quand tu as monté cette moyenne formation de te pencher sur cette période-là, ou c'est venu, entre guillemets, comme ça, ou c'était une conséquence du premier répertoire Led Zeppelin?
Non, là c'est pas, il y a aucun calcul de ma part, mais en tout cas, ces années-là, pour moi, sont des années quand même vraiment, qui ont vraiment marqué le siècle comme, à leur niveau, avec des choses très très compliquées. C'est politiquement, c'était assez compliqué. Il y avait la guerre du Vietnam, il y avait tout ça. On sortait de 68. Les choses étaient quand même. On passait d'un monde à un autre, en fait.
Les droits civiques aux États-Unis aussi.
Entre autres. Ouais. Enfin, en tout cas, on passe d'un monde à un autre, quoi. Oui. Et pas forcément dans la concorde. Hein, c'était un petit peu compliqué. Et par contre, en revanche, artistiquement, pour moi, c'est une période qui est incroyablement riche à tous les points de vue, musical, pop, cinéma, littérature, avec des gens qui se regroupent, qui vont au-delà des frontières. Pour moi, ça m'a toujours fait penser à ce qui se passait dans les années 20 à Montparnasse, en fait, ici à Paris, où il y avait un foisonnement comme ça de gens, d'artistes, de créateurs qui ont pris un tout petit peu leur destin artistique en main pour transgresser toutes les frontières. J'ai toujours été très très influencé et impressionné par cette période.
Et d'ailleurs, si on se resitue musicalement dans le contexte de certains groupes rock, pop de l'époque, c'est qu'on s'est retrouvé aussi à partir, on va dire, de 68-69 à peu près, donc des contemporains de Led Zeppelin, avec une génération de groupes qui ont intégré les cuivres de manière permanente dans leur formation. Et là, je pense principalement à deux groupes, à Chicago et à King Crimson. Donc, est-ce que justement, si on parle de cette période-là, après tout ce dont on vient de parler, Frank Zappa, Led Zeppelin, le rhythm and blues et l'électricité jazz des années 70, quelle piste au singulier et au pluriel aurais-tu envie éventuellement d'explorer avec cet orchestre-là ou dans un autre format?
C'est une vaste question, ça. Non, en fait, j'en ai plusieurs des pistes. Alors, il y a mon histoire, hein, d'ailleurs, où, donc moi, je suis issu d'une famille où mon père était jazz fan. Donc, en fait, j'ai grandi avec les grands big bands, américains, Basie, Ellington, Stan Kenton, en fait, toute cette couleur-là de cuivre. Et aussi, après, si on continue la suite, effectivement, pour, enfin, dans, où ça va le plus loin, c'est quand même les orchestres de Frank Zappa, en fait. Où il y a des cuivres, il y a de l'orchestration, il y a des vibraphonistes, hein, avec Russ Underwood, entre autres, avec des rythmiques aussi qui sont vraiment différentes, mais très... nouvelle en tout cas très créatrice. Donc voilà, moi mon paradigme c'est celui-là, avec bien sûr au milieu les grands orchestres de rhythm and blues.
Avec une petite référence pour l'album de Frank Zappa, on vous conseille vivement l'album de Grand Oiseau de 1972. Mmh. Et là, on va faire une nouvelle pause musicale avec Led Zeppelin version 1973, revue et corrigée par l'orchestre Franck Tortillet.
Bye.
le cinquième album studio de Led Zeppelin, Houses of the Holy, revisité par l'orchestre de notre invité du jour, le vibraphoniste Franck Tortillet, avec ce morceau intitulé The Crunch, pour conclure cet opus jazzis à la puissance Led Zeppelin. Merci à toi de ta visite.
Merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci.
Tu reviens quand tu veux, notamment pour parler de Frank Zappa, entre autres. On aura l'occasion de reparler de ça un de ces jours très bientôt. Merci au docteur Philippe pour la réalisation. Et merci à vous toutes et tous de rester fidèles aux histoires de jazz, entre autres choses, et de musique avant toute chose dans Opus Jazzis. En attendant de nouvelles aventures, portez-vous bien et à très très bientôt pour de nouvelles histoires. Salut à toutes et à tous.